www.orléans.radiocampus.org.
Faire de la radio dans sa cuisine, pas banal.
Radio Campus 88.3.
Et pour l'auditeur aussi, cela
change. Can I get a packet of cheese, please?
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'est à bâton rompu qui débarre. Magazine d'info tous les mardis de 19 à 20h avec en studio... Avec moi, Asma. Bonsoir, Asma. Attends, est-ce que... Vas-y. Asma. Mais non. Bah non. Bon, bah, Victor.
Bonsoir.
Victor, c'est bon, c'est réglé depuis tout à l'heure. Steven est là. Il faut que tu changes
bonsoir.
De micro.
Est-ce que tu m'entends là?
Mais non, toujours pas. C'est quoi le problème? Alors, vas-y.
Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
Non plus, toujours pas. Il y a deux studios qui marchent sur trois, c'est ça? Bah écoute, on arrangera des micros tout à l'heure. Bah, enfin, on t'entend de loin, mais vas-y, dis-nous bonsoir quand même.
Bonsoir.
Attends.
C'est moi.
Il ouais. Y a un truc, ouais. Vas-y.
Là, tu m'entends?
Mais non, même pas. Bon, on va demander à Erwan peut-être qui est en bas. En tout cas, Asma, si prends un micro qui marche pour nous dire ce dont tu vas nous parler.
Bonsoir Hassan.
Voilà, mais celui-là.
Bonsoir à tous.
Ouais, et tu vas nous parler.
Et je vais vous parler d'un procès qui s'est déroulé le 20 mai dernier, toute la semaine, aux Assises d'Orléans.
Procès d'un ancien prêtre, Olivier de Citivaux, accusé de viol à répétition
sur des enfants. De pédocriminalité.
Le procès est terminé, voilà, mais...
je vous en parlerai.
Tu nous en parleras, tu étais là, ton reportage est attendu. Monsieur Steven, lui, a rencontré...
Bonsoir.
Toujours un homme d'église, mais...
Ouais.
Un bon, lui.
Hein. Ouais,
un meilleur, peut-être.
Peut-être, on verra bien. Mais oui, on reste dans le thème de l'église cette semaine.
Juan Felipe Martinez Vélez.
Vélez.
Oui, c'est vrai, il dit ça. Alors, lui, il est d'une association que je ne connaissais pas avant que tu m'aies proposé le reportage. Le REPAM, c'est un réseau de l'Église catholique qui est en Amérique latine, en Amazonie essentiellement.
C'est ça, hein, en Amazonie, donc sur
qui promeut les...
9, j'ai plus.
Voilà, c'est ça, ouais, 9 pays qui promeut les droits et la dignité des personnes vivant en Amazonie.
C'est ça.
Eh bien, ouais, très bon reportage également qu'on entendra. Est-ce qu'on t'entend ? Vas-y.
Oui.
Eh bien, oui, meilleur.
Merci. Alors, merci.
Mais j'ai démuté tout. Enfin, je vais... messieurs, dames, heureusement que Erwan est là, parce que qu'est-ce qu'on serait sans Erwan ? En début d'émission, vous le savez, nous appelons, ou alors il est en studio, Mourad Guichard, journaliste indépendant, sur plein de supports, notamment le dernier, c'est sur le média, allez voir ça, il a plein de succès, Mourad. Et nous parlons, nous décryptons l'actualité locale ou nationale, et puis il fait de la critique de médias avec nous. On l'a eu tout à l'heure avec vous, c'était la première fois qu'on...
Hein, qu'on faisait une interview croisée, parfaitement. Ouais.
Donc c'est un peu plus long que d'habitude. Mourad, on le retrouve tout de suite. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Nous sommes très contents de t'avoir et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Victor et Steven pour ta chronique de début d'émission.
Bonjour.
Salut Mourad.
Bonjour à tous les deux.
Nous allons décrypter l'actualité en commençant par l'actualité locale orléanaise qui est marquée par la sortie du bulletin municipal Orléans Mag avec cette photo d'illustration, je ne sais pas comment dire, bah, qui a choqué en tout cas. C'est la photo d'un sans domicile fixe avec ce titre. Sans abri, Orléans refuse d'être la base arrière cachée de Paris. Déjà, on en avait parlé dans cette émission, Mourad, à la fin du mois de mars, Serge Grois avait lancé la polémique sur l'accueil des centres de domicile fixe et des migrants qui étaient envoyés depuis Paris.
Le déversement, hein, c'était, appelons un chat, il avait pointé le déversement par Paris à cause des Jeux Olympiques, d'SDF, d'immigrés, peut-être même d'immigrés SDF, hein, ouais. Tant qu'on y est, de migrants, de sans-papiers, enfin tous les fantasmes qu'il s'est charrié, notamment sur les plateaux de télévision, et je pense évidemment à CNews par exemple.
Il était à CNews, j'ai pas réussi à l'avoir, par contre il était sur BFM, écoutez-le.
Je dénonce d'abord l'opacité d'un système que nous avons au fil du temps découvert. Et je dénonce l'impuissance de l'État à gérer cette question d'émigration de manière générale et des personnes en situation irrégulière de manière plus précise.
Pourquoi est-ce qu'on vous envoie vers Orléans ces SDF et ces migrants ?
J'aimerais avoir la réponse à votre question parce que depuis des mois, je pose ces questions. Et depuis des mois, je n'ai que des réponses évasives, voire aucune réponse. Et je trouve que c'est particulièrement choquant. Je dénonce d'abord.
En fait, Serge Grois avait déjà, par la préfecture en tout cas, Mourad, des réponses à ces questions. Alors, la presse nationale s'est intéressée à l'affaire. Monsieur Lesky, Didier Lesky, il est président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il était interviewé par le 13-14 de France Inter juste le lendemain.
Ce que décrit le maire d'Orléans, c'est justement un sas où entre 30 et 50 personnes arrivent toutes les 3 semaines, et c'est toujours au même endroit, et puis elles sont orientées vers d'autres dispositifs en fonction de leur situation administrative. Ce n'est pas un lieu où d'un coup on aurait fait passer de 30 à 50 personnes à 500 personnes. Non, c'est justement un sas. Voilà. Qu'il y ait une politique de répartition de la charge de l'accueil me semble un bon principe républicain.
Et voilà, un bon principe républicain. Serge Grois remet le couvert, Mourad, avec ce dossier, parce que ce n'est pas qu'une photo, hein, ce n'est pas que la photo qui Ulysse, mais il y a un dossier dans le Orléans Mag. C'est quoi ton analyse de la situation ?
Pour moi, il y a beaucoup de gens qui s'en sont étonnés, moi pas, parce que je connais la position de Serge Grois, on en a parlé déjà ici à plusieurs reprises sur les questions d'immigration. Il était en 2002 déjà, alors qu'il venait d'être élu maire de la ville, il nous avait déjà parlé de sa position qui est immigration tolérance zéro. Donc il y a eu ça, il y a eu évidemment la lettre aux musulmans, et puis il y a régulièrement des allusions, et notamment je reparle de sa présence qui a été régulière au cours de ces dernières années sur le plateau de CNews, on n'y vient pas par hasard. hasard à CNews. Il y a une ligne idéologique très précise, notamment chez Pascal Praud. Pascal Praud qui, je le rappelle, va passer en procès dans quelques semaines pour dans le cadre de l'affaire du documentaire Jeanne d'Arc qui avait mené notre confrère, l'ancien directeur de France 3 Centre, Val-de-Loire, à être menacé de mort suite à leurs invectives sur le plateau, balançant son nom en pâture et évidemment à dessein, en sachant pertinemment ce qui allait se passer. Derrière, je ferme cette parenthèse. Alors, il y a tellement de SDF et tellement d'immigrés. Alors, il y a marqué, pour ceux qui ne l'ont pas sous les yeux, mais je vous invite à aller la voir. On voit donc ce qu'on présume être un SDF allongé sur un trottoir avec une couette, donc on ne voit pas son visage. Et il y a tellement de SDF et d'immigrés à Orléans que c'est une photo en fait d'illustration.
C'est ça.
C'est même pas une photo prise dans les rues d'Orléans. Donc ça, c'est assez magnifique, quoi. C'est assez magique. Et c'est la première fois, je crois que c'est le communiqué de OZ, le groupe d'opposition municipale de gauche. Je crois que c'est eux qui dans un communiqué, précisaient que c'est la première fois qu'ils voyaient instrumentaliser le journal municipal, qui, je le rappelle, est payé par les Orléanais, pour en faire un outil politique. Alors évidemment, on sait bien qu'il y a toujours de la politique et de la promotion d'une ville dans un journal municipal, ce qui fait d'ailleurs que la commission paritaire ne reconnaît pas, et la commission de la tiers de presse ne reconnaissent pas les journaux municipaux comme des journaux, puisque les gens qui y travaillent, par exemple, qui sont d'ailleurs dont je connais une partie, qui sont tout à fait respectables et qui font un très bon boulot, hein, mais statutairement, ils n'ont pas la tiers de presse. Donc ça n'est pas un journal généraliste, c'est un journal d'opinion qui laisse une toute petite place grâce à la loi à l'opposition en toute fin de journal. Mais là, effectivement, je confirme que c'est la première fois que je vois une telle instrumentalisation d'un journal municipal à des fins. Alors, idéologique, puisqu'il n'y a pas d'élection en vue pour le maire d'Orléans, donc c'est vraiment remettre 5 euros dans la machine. Alors, je te remercie beaucoup, Hassan, d'avoir diffusé effectivement cette interview où le responsable dit pardon, j'ai perdu, c'est l'office...
L'office français de l'immigration et de l'intégration.
C'est ça, l'OFI, qui remet les choses à leur place, c'est-à-dire que c'est pas une nouveauté, ça ne date pas des Jeux Olympiques. Évidemment qu'on a tout intérêt, alors j'aime pas trop le mot répartition parce que ça fait vraiment, ça déshumanise, hein. mais effectivement il faut que chaque territoire prenne sa part et qu'on puisse accueillir, de façon tout simplement accueillir dignement ces personnes qui doivent pouvoir se loger, qui doivent pouvoir se nourrir, qui doivent pouvoir bénéficier d'actes de santé. Et c'est pas une espèce de vague comme le fait croire pour essayer de briller un peu sur les plateaux et dans les studios. Ce que raconte Serge Gouard est tout simplement faux. Mais au lieu de faire amende honorable et puis de calmer le jeu, il vient de remettre avec l'argent de tous les contribuables orléanais, il vient de remettre un euro dans la machine. Je trouve ça pathétique. J'ai pas d'autres mots. En fait.
Ouais. L'opposition, tu disais, l'association OZ a réagi, le groupe RCGE également. Allons plus loin. Est-ce que il y a évidemment pas d'élection là demain pour le maire d'Orléans, mais certains analysent même au niveau national que Serge Gouard fait le parti de l'élection d'un ou d'une candidate du Rassemblement national et il chercherait une place, il pourrait être placé comme ça. Est-ce que c'est l'analyse que tu fais également?
Oui, alors je redis bien que c'est une question vraiment d'idéologie, c'est-à-dire que c'est ancré en lui, c'est pas quelque chose qui est comme ça. Il n'y a pas que de la, pour moi, selon moi, il n'y a pas que de la stratégie. C'est aussi la volonté. On avait parlé ici, j'avais souligné une fois la nomination d'un au lendemain des municipales de 2014.
C'est ça.
Il avait nommé un obscur petit conseiller municipal qui n'est plus là d'ailleurs maintenant et voilà, et tant mieux. Comme délégué à l'immigration,
je me rappelle.
Pas aux étrangers, si le terme est exact, je crois. Aux étrangers, comme si on vivait dans une république démocratique et populaire qui a ses propres règles. C'était complètement débile. On a réussi, je dis on parce que j'avais tartiné là-dessus, à faire annuler par la préfecture ce truc scandaleux. Et c'était au lendemain de l'élection où il avait été élu avec 53% je crois au premier tour si mes souvenirs sont bons. Et donc il n'avait plus rien à prouver, plus rien. Il y avait l'élection qui venait d'être passée, il l'avait remportée haut la main, donc c'était vraiment vraiment une nomination idéologique visant très clairement les étrangers vivant sur le territoire de la commune. Donc voilà, je pardon d'être un peu long, mais c'est juste pour resituer et dire que pour moi c'est pas il y a pas forcément de calcul derrière. Évidemment, c'est très bien que Serge Gouard se trouve à la droite de la droite, hein, là-dessus, il n'y a pas de secret. Mais je ne pense pas si loin d'une échéance nationale, je ne pense pas qu'il s'amuserait à faire ça uniquement pour, par calcul électoral. Je ne le pense pas pour le coup.
D'accord, très bien. Mais il y a des élections, pour le coup, justement, dimanche, où l'extrême droite caracolante.
C'est éloigné des champs du possible pour Serge Gouard. Il n'est pas candidat. Je sais même pas qui il soutient. Enfin, voyez, il est quand même très éloigné de la sphère européenne. Et les conséquences des résultats de dimanche vont pas avoir une influence délirante avant avant la prochaine présidentielle.
Ouais. Deuxième sujet qui concerne les européennes, justement, notre jeune premier ministre Gabriel Attal. Bad buzz, il fait irruption, c'était hier à France Inter, je crois, dans un des studios, la candidate du groupe Renaissance était interviewée, Gabriel Attal, lui, il était interviewé une heure avant dans un autre studio, il fait irruption dans le studio où est Valérie Ayé-Écoutez.
Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie.
Je crois que je le connais un peu, oui.
C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal.
Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Salut Gabriel.
Ça va, tu vas bien? Très bien. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour, ça va?
Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène.
Monsieur le Premier ministre.
J'étais en interview juste au-dessus à l'instant.
C'est complètement imprévu.
On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment.
Vous êtes un peu inséparables, oui.
Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement. Je les vois et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Dans quelques jours aussi, on va commémorer un moment très important dans notre histoire, en Normandie, avec le président de la République. On va commémorer le fait qu'il y a 80 ans, des jeunes comme vous, comme nous, ont débarqué en France, ils venaient des États-Unis, ils venaient du Canada, ils venaient d'ailleurs, pour nous permettre de vivre libre et en démocratie. Et ce qui nous a permis de vivre libre et en démocratie depuis tout ce temps, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui est en danger aujourd'hui et qu'on doit absolument défendre. Ne serait-ce que pour faire honneur au courage de ceux qui nous ont permis aujourd'hui de vivre libre et qui nous ont débarrassés.
Bon, allez, c'est super long, c'est 3 minutes comme ça.
Et puis un message
je vous mets la fin quand même.
L'extrême droite, elle a gagné les élections européennes en France en 2014, en 2019. Et pourtant, l'Europe est encore là, c'est vrai. Mais la vraie différence par rapport à 2014 et 2019, c'est que l'extrême droite, elle est haute aujourd'hui dans tous les pays européens. Et pour la première fois dans l'histoire de ces élections européennes, il y a un risque qu'elle dispose au niveau européen d'un groupe capable de bloquer le Parlement européen, d'empêcher le Parlement européen de prendre des lois, de prendre des textes, notamment sur le climat. Et ça serait terrible pour l'Europe, terrible pour nos générations et terrible pour la planète.
Vous nous laissez l'interroger.
Je vous laisse avec elle.
Ben voilà, merci.
Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien.
Voilà,
c'est Valérie,
je le connais un peu. Oui.
C'est le Premier ministre de la France, Gabriel.
Gabriel, très gentil. Mourad, cette séquence est hallucinante.
Oui, alors l'ORTF d'Alain Perfit m'avait manqué, hein, je le dis très clairement. Alors, merci de l'avoir rétabli, de l'avoir réhabilité. Rien ne va dans cette séquence.
Pour plusieurs
raisons. Il y a d'abord le fait de la mise en scène en elle-même. On entend bien, vous pouvez réécouter ou aller le voir sur Internet, mais vous voyez que la journaliste est presque en plateau, est presque fière d'accueillir Attal Monsieur le Premier ministre. Absolument. De la France, avec un effet de surprise complètement malaisant, pour pas dire malsain, et le simple, alors moi je veux dire, dans un média anglo-saxon par exemple, c'était niet, hein. C'était vous n'êtes pas invité, point, enfin il n'y a pas de discussion. Mais le pire évidemment là-dedans, c'est que Attal, l'homme, Gabriel Attal se sent supérieur à la femme Valérie Hayek, qui est pourtant tête de liste, hein, lui n'est pas candidat, je le rappelle. Il se sent supérieur et il donne cette forte impression de venir au secours, à la rescousse de cette pauvre femme, parce que ça n'est qu'une femme finalement, hein, qui n'est pas très, très brillante, très douée, qui mène une campagne laborieuse, mais lui arrive en sauveur. Et je trouve ça extrêmement gênant, c'est d'une misogynie sans nom. Je ne sais pas s'il réalise ce qu'il est en train de faire, et comme tu l'as bien dit, Hassan, c'est au bout de trois très longues minutes qu'il est enfin interrompu et qu'on demande si on peut éventuellement faire le job, c'est-à-dire celui de d'intervieweur et de choisir, puisque je rappelle que chaque rédaction a son libre arbitre, hein, pour inviter qui le souhaite. Alors évidemment avec les temps de parole pour les différents partis, mais enfin on invite qui on veut. Ouais. C'est le cas dans ton émission par exemple. Ouais, mais tu traites les sujets que tu souhaites et c'est tant mieux comme ça. Ça s'appelle l'indépendance éditoriale. Ouais. Je pense que Radio France a abîmé, comme si ça suffisait pas, a abîmé encore un peu plus l'image de la profession à la veille de ces européennes. Et évidemment, je lisais les nombreux commentaires là sur les réseaux sociaux. Évidemment, on se demande Si c'eût été un autre homme politique qui s'était autorisé à faire ça, est-ce que ça serait passé crème comme ça l'a été là? Je ne le pense pas, sans tomber dans le complotisme, je ne le pense pas. Et la déférence et la manière dont il est accueilli, je vous invite vraiment à voir la vidéo, me met extrêmement, effectivement, mal à l'aise.
Victor?
Oui, je trouve qu'il y avait aussi un truc à relever, c'était son parallèle entre les Américains qui viennent nous sauver des méchants fascistes. Alors bon, on rappelle aussi que au-delà du débarquement, parce qu'en France on a surtout eu le débarquement, mais c'est en grande partie grâce à l'Union soviétique que le fascisme a été défait en Europe, hein. C'est pas uniquement grâce aux Américains. Mais surtout, j'aime beaucoup le fait qu'il fasse le parallèle entre ça et l'Europe, comme si l'Europe a été la matrice voulue par les Américains, etc. Non, l'Europe a été une construction qui a été faite justement pour pouvoir compenser le pouvoir des Américains sur la scène internationale. Donc ça, c'est marrant de faire un parallèle entre les deux, quoi.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que alors oui, c'est par rapport, c'est une sorte de réponse au plan Marshall, effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que il faut toujours dans ces événements historiques essayer de capter. Ce qui est pas évident, hein, c'est un travail de recherche pour le coup, mais il faut toujours capter la perception qu'en ont les contemporains. Et effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension, par exemple, sur la manière dont était considéré par de nombreux politiques français Joseph Staline. Si on ne capte pas, malgré les horreurs du goulag qu'on va découvrir longtemps après, des privations de liberté et ainsi de suite, des massacres de masse, pareil qu'on va découvrir après, si on n'a pas ça en tête, le fait que effectivement Staline et l'armée rouge étaient considérés par une partie de la population comme les sauveurs, c'est-à-dire que c'est eux qui sur le front de l'Est ont stoppé l'avance de l'armée allemande et ensuite l'ont fait reculer et in fine l'ont battu, puisque on a toujours en tête cette fameuse image du drapeau soviétique qui va monter à Berlin. Effectivement, si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi, Victor. Attal utilise une vieille un truc à la Sardou. Je vous renvoie vers la chanson de Sardou sur les Américains. Si les Ricains n'étaient pas là, nanana, nous serions tous en Germanie. Il utilise cette vieille histoire, ce vieux storytelling, effectivement, pour créer une espèce de choc des comparaisons pour pouvoir vendre ce qui va se passer le 6 juin, et c'est tout à fait honteux, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Steven ?
Alors, il y avait un autre truc que moi j'ai relevé, c'est son comparatif, enfin c'est le fait de prétendre faire barrage aux idées d'extrême droite au niveau de l'Union européenne. Je voudrais quand même rappeler qu'on a eu le pacte immigration qui a été voté en début d'année, qui est... pour ainsi dire, les idées de l'extrême droite, c'est juste l'Union européenne qui a pris le pas sur les futures élections et les futures projections qui sont faites au niveau de l'extrême droite.
Donc, bon. Bah oui.
Je crois un peu comme j'évoquais là au cours d'une réunion récemment, je reparlais de l'abstention militante, cette fameuse abstention où les gens disent c'est pas que je m'en fous, je m'en balais, que j'irai pas voter, ça m'intéresse pas. C'est qu'il me disait il y a quelques années encore, il me disait très clairement, notamment à la source, j'avais fait un papier sur un bureau de vote qui avait connu 90% d'abstention,
sans qu'il y ait un
autre titre que toi. Voilà, et qui me disait non, moi c'est fini, je me suis fait entuber pour aller vite par Sarkozy, je me suis fait entuber par Hollande, maintenant c'est terminé, vous n'aurez plus jamais ma voix. Enfin, vous, la classe politique n'aura plus jamais la voix de ces gens-là. Et donc, un peu comme ça, j'ai cette espèce de sentiment que il va y avoir une abstention qui va être excessivement forte, et donc tous les abus, toutes les comparaisons foireuses, pour reprendre ce que disait Victor, tout ça découle en fait d'une absence totale. C'est-à-dire que s'ils prennent une tôle au moment des européennes, je vous rappelle qu'il y a un seul tour, donc on le saura dimanche soir. S'ils prennent une tôle, ça va être un peu compliqué quand même à gérer. Donc les excès, les abus de langage, les comparaisons hâtives sont aussi là pour cacher cette trouille de se prendre un véritable râteau dimanche. Donc on verra ça, on en parlera du coup, je pense, mardi prochain.
Ça marche. Un dernier truc, Mourad, l'œil de mou sur le média, c'est quand, mercredi, jeudi maintenant?
Normalement, c'est le mercredi soir. Il faut guetter de ça. Donc, on va refaire une série de top, une série de flop, et puis avoir au microscope, notamment tout ce qui découle de cette histoire depuis le 7 octobre, à savoir une montée de l'arabophobie, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, ou l'islamophobie, au choix, hein, vous utilisez le terme que vous voulez, mais.
Le racisme, tout simplement.
Le racisme, tout simplement, oui, parce que derrière tout ça, il y a évidemment du racisme, qui a été notamment mis en exergue récemment. Je vous invite à aller voir, il y a un dessin qu'a posté Jean Quatremer, qui, je sais pas exactement s'il était vraiment conscient de ce qu'il faisait, je pense que oui, parce que c'est quelqu'un de très cultivé, et qui montrait un arabe satanique à la place d'un autre présumé arabe qui était dans une manifestation avec Louis Boyard, et ça pose question de mettre dans un sac des gens qu'on ne connaît même pas, puisque c'est quelqu'un qui est sur une photo qui était un inconnu. Ouais. Simplement, on présume, comme il a un physique plutôt arabisant, plutôt maghrébin, on présume que c'est un sataniste, un espèce de manipulateur islamiste, et ça crée de facto une forme d'amalgame qui devient difficile à vivre et à gérer pour les musulmans de France, dont certains vont tout simplement ont déjà quitté le pays parce qu'ils jugeaient complètement intenable, intolérable, enfin ce climat dans lequel ils vivent aujourd'hui. Il faut vraiment mesurer, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais je le redis vraiment, il faut mesurer l'impact que tout ça, toute cette bouillie politico-médiatique peut avoir sur la vie des gens. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas amoindrir le moins du monde. C'est extrêmement violent pour toutes nos consoeurs et nos confrères et compatriotes, pardon, de musulmans.
Jean Quatremer, un journaliste correspondant de Libération, il me semble, à Bruxelles. Il s'occupe
depuis toujours, qui est un européiste complètement gaga, qui est complètement fou d'Europe, qui prend aucun recul sur ça, et qui du coup il a eu une position plutôt pas mal au moment. Il y a deux mois, je crois. Il a eu une position pas mal sur. Il était quasiment à reconnaître le génocide, et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Comme beaucoup d'autres, ils font machine arrière et ils repartent dans leur vieux cliché, alors qu'on est encore en plein génocide et que c'est pas malheureusement pas près de se terminer.
Eh ben nous allons regarder la prochaine édition de L'œil de Momou. C'est sur le média, c'est une émission à ne pas louper, hein, c'est sur la chaîne YouTube, mais il est également sur la box. Hein, voilà. Et je crois que Pascal Boniface, géopoliticien, valide ce que je viens de dire.
Ah oui, très bon. Très bon, Pascal Boniface, c'est une très bonne référence.
Il m'a déposé un commentaire effectivement absolument élogieux sur Twitter. Je le remercie vivement et venant de lui, effectivement.
Félicitations, Mourad.
C'est extrêmement touchant.
Voilà, exactement. C'est vrai, il a dit que l'émission était absolument, je sais plus le terme, mais c'est nécessaire en tout cas. Merci à toi, Mourad, et on se revoit très très vite sur cette antenne.
Avec grand plaisir, merci à vous, excellente émission, évidemment je suis à l'écoute.
Oui, mais on se
revoit. Au revoir, Mourad.
Allez, on se revoit.
Salut les amis, bonne émission, à tout à l'heure.
On se revoit tout de suite d'ailleurs, parce que je voulais qu'il réagisse sur sur la photo là, dont on a parlé, la photo d'Orléans Mag, quand c'est paru sur les réseaux sociaux, il y a eu un like, un cœur. Venant de l'archevêché, je crois, d'Orléans. Et Mourad a fait son boulot de journaliste. Il a appelé, lui. Et en fait, apparemment, c'était une erreur. et je lui ai demandé de nous en parler juste là. Mourad, joue cette photo et cette ce Mourad joue cette photo et cette ce Mourad joue cette photo.
Oh là,
et
oh là,
cette... Mais c'est non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est là, peut-être. Mourad joue cette photo et cette ce Mourad joue cette photo et cette
non.
Ce
Mourad, eh ben, j'ai un problème.
Ce Mourad joue
bon,
cette
bah,
photo
écoute, et nous en a parlé et puis voilà. Mais du coup, j'arrive pas à le diffuser. Non, non, il y a un souci vraiment. On le passera une autre fois ou il expliquera la semaine prochaine. On va passer un peu de musique et Asma, ton reportage est juste derrière. Guitariste américain d'ascendance, alors je crois que ses parents sont chiliens et philippins, donc ouais, vous voyez le mélange. Et ce monsieur a été dans sa jeunesse champion de skateboard, donc il fait toute sa musique autour de ça, ce son planant où on sent bien du surf et du skateboard derrière. À l'instant, dans Batteur en plus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, c'était The Color of Life.
À Batteur en plus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Procès d'Olivier de Citivo. Hein. C'est bien parce que je me disais, je vais...
Est-ce que tu m'entends? Parfait.
Oui, bah oui, que j'allais louper son prénom. Olivier de Citivo.
Oui, Olivier de Citivo de Grèche. Il a une autre particule, lui faire honneur.
Ancien prêtre à Orléans, accusé de
pédocriminalité.
De pédocriminalité. Et tu as suivi ce procès.
J'ai suivi ce procès le lundi 20 mai dernier. Donc, le procès du prêtre Olivier de Citivo s'ouvrait aux assises d'Orléans. Pendant une semaine, les témoins, experts, victimes, parties civiles et l'accusé lui-même donc, se sont exprimés à la barre chaque jour. Le prêtre a été reconnu coupable et a reconnu lui-même avoir commis des faits d'agression sexuelle et de viol sur les 4 parties civiles présentes. Et deux absents pour qui les faits avaient été prescrits, qui n'étaient pas là. Les faits s'étaient déroulés entre les années 90 et 2002. Ils ont eu lieu sur plusieurs années, dans différents lieux, dans une colonie de vacances en Bretagne, que le prêtre lui-même dirigeait, à son domicile et même au domicile des parents des victimes. Au final, on a estimé le nombre de sévices sexuels à une centaine d'agressions pour chacune des victimes. Qui ont raconté leur calvaire, aussi qui ont raconté leur parcours de vie, qui a été gravement impacté, comme on l'imagine. C'était une des journées, un des temps forts de cette semaine d'assises, la journée des témoignages des victimes, où ils ont raconté dans les détails, avec beaucoup de courage, de dignité, de colère et de tristesse. Parmi les 4 parties civiles, il y a 3 frères qui, toutes ces années, pensaient chacun être le seul à subir le calvaire, jusqu'à ce qu'il soit contacté par la gendarmerie quand une enquête a été ouverte par une des deux victimes qui n'était pas présente en 2018. Et c'est là où ils se sont rendus compte. Ils ont été forcés de se rendre compte qu'ils étaient tous les trois victimes de ce prêtre. Les temps les plus horrifiants et scandaleux de ce procès ont été d'entendre le nombre de témoins qui savaient, qui avaient vu, qui côtoyaient l'accusé lors de, notamment de cette colonie, des animateurs qui étaient présents, qui voyaient le prêtre, par exemple, allongé sur des enfants pendant la sieste, qui voyaient le prêtre accompagner des enfants dans l'infirmerie, passer beaucoup de temps, entrer dans les douches pour X raisons. Avoir des attitudes tactiles avec les petits garçons, prendre contact à mécène avec eux, alors qu'ils se désintéressaient totalement des filles. Beaucoup ont tenté de faire du bruit, de signaler, de dire aux institutions de l'Église, et puis pendant des décennies, on n'a rien voulu voir. On a fait taire les témoins. Le prêtre de Citivaux a même été déplacé, mais a continué d'être au contact d'enfants. Après une longue semaine de procès, c'est le samedi 25 mai dernier que le verdict est tombé. 17 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de sûreté. L'avocat d'une des victimes, Maître Fréty, m'a confié sa réaction quelques minutes après le verdict.
A enfin exprimé tout ce qu'il savait et tout ce que les victimes voulaient entendre par rapport aux actes qu'il a commis sur elles. Et ça, c'est très important parce que cette quête de la vérité, elle était notamment la quête de dizaines d'années de souffrance, notamment pour notre client et puis pour d'autres des parties civiles qui avaient parfois des amnésies sur ce qu'ils avaient subi enfant. Donc pouvoir recoller les morceaux, pouvoir reconstruire entièrement le scénario du film de leurs agressions et de leurs viols, c'était très important, et l'accusé s'était engagé à ouvrir le tiroir, à dire les choses, et il l'a fait. S'il y a aussi quelque chose qui apparaît un petit peu en négatif de l'audience, c'est le désastre antérieur. Ce désastre, c'est celui non seulement de la violence et des viols infligés, mais surtout du silence de nombre de vicaires généraux et d'évêques précédents qui ont tué, caché, oublié ou non, surtout même pas voulu transmettre les signalements qu'on leur faisait et qui parfois même se sont montrés presque virulents ou par rapport à des personnes qui souhaitaient leur parler des faits ou les inciter à les révéler. Et ça, c'est une conduite qui est inacceptable. Elle confine presque moralement une forme d'entrave à la justice et elle provoque des séismes tels que celui-ci où on a des 4 jeunes qui ont été violés presque 100 fois chacun.
Où on apprend quand même qu'il y a des parents qui ont déconseillé à leur enfant de parler, quoi.
Oui.
Terrible.
Ouais, entre autres, oui.
Terrible.
Comme l'avocat Maître Fréty vient de le dire, l'accusé a reconnu chaque fait. Il les a nommés, probablement plus par intérêt que par sincérité, parce qu'il a longtemps nié pendant l'instruction, jusqu'à même accuser certaines des victimes d'avoir cherché, d'avoir provoqué, d'avoir eu des attitudes de séduction à son encontre. Mais il a nommé chaque fait, il a endossé la pleine responsabilité, ce qui a en partie libéré certaines des victimes. Olivier Titivo a même demandé pardon aux parties civiles. Je propose d'écouter Jérôme, des parties civiles, qui a accepté de me livrer ses impressions juste après le verdict.
On va dire ma victoire la plus importante de cette semaine, c'est le fait qu'il ait reconnu pleinement et entièrement tous les faits qu'il a fait sur moi, leur gravité, leur nombre important, l'étendue des années importante aussi. Et moi, j'avais besoin de ça. C'était le plus grand besoin que j'avais en venant à cette cour. Je n'osais pas l'espérer. Il l'a fait et j'ai l'impression que je peux repartir un peu entier d'Orléans, ou comme si en fait y a maintenant l'homme que je suis et la même personne que l'enfant que j'étais qui a subi ça. C'est des larmes de soulagement. On parle vraiment de faits qui sont passés il y a très longtemps, qui ont été couverts pendant très longtemps. On parle d'une procédure horrible pendant 6 ans où Monsieur Décitivo a nié, puis reconnu, puis nié de nouveau, etc. Et en fait, être complètement suspendu à ce qu'il dit, ça a été vraiment horrible. Et ce que je vais dire est horrible, mais de la culpabilité, où je sens encore de la culpabilité sur ce qui est en train de se passer. Alors qu'on est en train de parler de centaines et de centaines et de centaines d'actes de viol et d'agression sur mineurs de moins de 15 ans. Ensuite, c'est un peu tôt pour parler de pardon, mais les choses se sont mises à leur place cette semaine, c'est-à-dire que cet homme a fait ses actes immondes sur nous quatre et sur moi. Il l'a reconnu. Il a posé les mots, il a dit « J'assume, c'est moi le responsable, ce n'est pas vous », puisque c'était, il disait pas ça avant. Et ça, déjà, ça pose les bases pour déjà, moi, une relation un peu plus saine avec son fantôme. Les premiers mots que M. de Citivo a dit lors du procès, il a dit qu'il accepterait la peine, quelle qu'elle soit. Et je pense que tout le monde, c'est-à-dire évidemment les parties civiles, mais également le jury et d'une certaine manière la presse, la société, a entendu cet engagement. Et moi, mon espoir le plus profond, c'est qu'ils tiennent cet engagement.
Un reportage, une question oui. en deux parties. Hein,
parce oui, qu'il, en deux parties. Il a voulu préciser. Justement, je voulais détailler à la fin de cet extrait. C'est Jérôme qui est revenu vers moi parce qu'après avoir entendu qu'il était grandement question que Olivier Titivio fasse appel. Et voilà, il est revenu pour préciser qu'au départ, Olivier Titivio, au début de la semaine, il a commencé par dire qu'il endosserait la peine, quelle qu'elle soit. Voilà, donc évidemment, au regard de la loi, il a le droit de faire appel. Ça a été on en a longuement parlé avec son avocat.
Et il va faire appel, je crois.
Et il a fait appel. Ouais, ça y est, la procédure d'appel va être entamée. Mais symboliquement, c'est très difficile à accepter.
Bien sûr.
Symboliquement, c'est difficilement acceptable pour les victimes. Mmh. Voilà, et j'ai pu également échanger avec Quentin, un des trois frères, qui m'a confié sa réaction juste également après le verdict, et aussi qui m'a parlé de ce qu'il fait lui maintenant, parce qu'il est très engagé dans des associations, notamment dans la prévention. Il intervient auprès de jeunes dans la prévention, dans le conseil, l'accompagnement des prises en charge pour les victimes ou les gens qui sont en contact des gens qui seraient victimes.
On l'écoute
Quentin.
Donc c'est un verdict qui est sévère, mais qui est aussi à la hauteur de ce qu'on a tous subi pendant toutes ces années, puis ça permet aussi à d'autres sans doute de faire un chemin sur leurs propres histoires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient avec nous, et puis ça résonne aussi pour beaucoup de monde. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle les Lucioles du Cœur. Donc on a monté avec Olivier Savignac un concept. C'est un ciné-concert en fait qui tourne principalement pour les adolescents, on va dire à partir de la classe de 4e, et ça s'adresse à tout public ensuite. C'est justement sur la vie d'un jeune qui s'appelle Baptiste, qui reçoit, qui a des flashs, qui se remémore les agressions qu'il a subies. Et on voit tout son cheminement intellectuel, son cheminement judiciaire, jusqu'au dénouement judiciaire. Donc c'est un ciné-concert, ça dure 1h20. Il y a un film qui est entrecoupé de morceaux joués en live par 4 musiciens. Sont des morceaux écrits par Olivier Savignac. Et donc on tourne dans toute la France. Et après le ciné-concert, on fait toujours un débat avec les professionnels en charge justement de la protection de l'enfance, les associations qui peuvent accompagner les personnes victimes. Et on a toujours en général une psychologue dans la salle pour recueillir la parole des personnes qui en auraient besoin. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque intervention, on a des personnes qui se manifestent.
Abattant rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
La suite, c'est que Olivier Titivo a fait appel. Il était condamné à 17 ans. Hein,
oui, 17 ans avec 10 ans de sûreté.
En première instance, il fait appel. Il y aura donc un nouveau procès.
Oui.
Et j'apprends, là, je suis en train de lire chez nos confrères de France Bleu, qu'ils ont eu un coup de fil d'un monsieur, parce que là, c'est pas un gamin, qui a été violé également par Olivier Titivo, donc qui voudrait parler.
Oui.
Donc peut-être à libérer des voix. Tu étais dans la salle. Oui. J'ai lu les papiers autour de ce procès. À un moment, il décide de tout reconnaître. Il dit voilà, j'ai tout reconnais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la salle ?
Cette expression ouvrir le tiroir, c'est Jérôme qui l'a dit. Il a dit que pour beaucoup, il y a des parties de souvenirs qui sont floues. Il leur manque. Et Jérôme avait dit, c'est comme s'il avait une partie de ma vie coincée dans un tiroir. Et à la fin de la journée, je crois que c'était la journée de mercredi. Mercredi, oui. Il s'est levé, il a dit la prochaine fois. Il avait eu très peu la parole, en fait, Olivier Titivo. Il l'a eu en dernier. Et il a dit la prochaine fois que je prendrai la parole, ce sera pour ouvrir le tiroir.
D'accord, très bien. Et alors, tu as suivi ce procès en compagnie de l'excellente consoeur
Sophie Deschamps,
qui a écrit un papier pour Max Centre.
Oui,
mais Sophie a écrit aussi un livre sur cette affaire.
Oui,
elle a enquêté et un livre de très bonne facture. J'ai invité Sophie à venir dans une prochaine émission pour qu'on parle de ça, parce que les affaires de pédophilie à l'église, à l'archevêché d'Orléans, c'est un, C'était un grand souci. Ça a été même, on en a parlé un peu partout, même dans le monde, je crois. Voilà. Merci de ce reportage, Asma. Très bon reportage.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Avec aussi Steven. Il est là, il se réveille. Je le réveille, Steven.
Non, j'étais là, j'écoutais.
Oui, je sais.
Je me dis, putain, la relance, ça va être compliqué derrière.
Ça va être derrière. Eh ben, c'est ça. Eh ben, tu as rencontré, on parle toujours d'église, mais ouais, une autre église. Tu as rencontré, donc, je disais tout à l'heure, son nom, c'est Juan Felipe Martinez Vélez, qui vient du REPAM. Alors, c'était à quelle occasion? C'était pour le...
Alors, c'était à l'occasion de la semaine Laudato Si. Ouais. Je sais pas si je le prononce bien, mais donc une semaine d'échange en fait international dans le mouvement catholique entre catholiques en fait. Ouais. Grosso modo, on pourrait le résumer comme ça.
D'accord. Et t'as posé la question à Juan, hein, de pourquoi il était là, c'est ça?
Ouais. Donc je vais poser pas mal de questions, hein, parce que c'était l'occasion enfin de parler du message du Seigneur et puis d'écologie. Donc je me suis dit autant en profiter. Juste pour information, donc il fait partie du REPAM, hein, le réseau ecclésial panamazonien. Ouais. Et donc c'est le Secours catholique, hein, qui l'a accueilli pendant une semaine en fait. Afin de justement discuter de toutes ces questions d'écologie et de parole en fait des minorités indigènes et afrodescendantes notamment. Ouais. Donc une rencontre et je le laisse expliquer un petit peu de quoi il s'agissait.
Ouais, mais c'est en espagnol et Victor va nous traduire ça.
Moi je l'ai fait allemand élevé, hein, ça va être compliqué.
Et ben t'essaieras quand même. Allons-y.
Et qui busca accompagner en los 9 países de l'Amazonie a los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes en la defensa de la vida, el territorio y los derechos de los pueblos.
Bon, alors...
C'est vrai qu'il fait hispanique, Victor.
Ah bon, c'est sûr. Du coup, Victor, traduction
je suis content. Pas, j'en ai absolument aucune idée, je parle pas espagnol.
Non, mais oui. Je suis content d'être là.
Parce que Juan, il vient de Colombie, donc oui, effectivement, il parle espagnol. Mm. Mais j'ai eu la chance d'avoir le secours catholique qui était avec moi et qui nous a fait la petite traduction.
On écoute tout de suite.
Alors, c'est un réseau qui cherche à accompagner sur les 9 pays qui constituent l'Amazonie. Il cherche à accompagner les populations autochtones, indigènes, paysannes et afrodescendantes dans le respect de leurs droits, dans la défense de la vie,
el territorio,
de la défense du territoire
y los derechos humanos.
Et les droits humains.
Il y a même un cours... qui est dedans, mais bon. Après, c'est pas parce que vous comprenez la langue que vous avez le vocabulaire. Moi, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Hein. Donc, le REPAM est chargé d'accompagner les processus paysans, afro-colombiens et indigènes de prise en charge de la maison commune en Amazonie. Bon, il parlait d'un espace de conversation et de réunion. Donc, moi, un peu naïvement, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un bâtiment. Quelle fut ma surprise.
Mais oui.
Entendez, ce qu'on appelle la maison commune, c'est la protection de la création. C'est ce qui nous est demandé de...
D'accord, voilà. Que je
et
pas
du coup, le... dans son...
Le projet.
Dans la mission de la REPAM, quand on défend les droits, qu'on défend le territoire et qu'on défend les personnes, on protège la maison commune.
Ok.
Ouais, donc la maison commune, en fait, c'est la terre. Hein. Voilà. Je vous épargne tout le passage où ils m'ont pris pour un gros teubé, parce que j'avais vraiment pas compris. Je suis désolé, j'ai pas eu la formation chrétienne. Hein. Vous pouvez me dire, oui, mais comment du coup ils interviennent auprès de la population en Amazonie? Je vous laisse écouter.
Alors l'Église a accompagné de tout temps et depuis longtemps la population en Amazonie à travers trois axes. D'abord la formation et la sensibilisation, mais aussi en se faisant l'écho de la voix et de la réalité de la vie des personnes. Et enfin le troisième axe de travail, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer politique, aussi bien au niveau national qu'avec le soutien d'autres personnes au niveau international, pour rendre visible ce que les populations vivent.
L'accompagnement, c'est un basique. L'Église, elle adore accompagner. Elle a même accompagné les politiques d'extermination et d'exploitation des indigènes et des afro-descendants. Ouais, là, j'étais obligé de le caler. C'était un incontournable.
Mais c'est pas bien, parce que mais... Juan Vélez...
Oui, non, mais je m'étais pas encore mis l'Église à dos, du coup. Je me dis, c'est le moment.
La maison commune, la maison des autres et tout ça. Toi, tu viens casser le truc.
Non, mais rapidement, faut que j'explique. Hein. Je vous rappelle qu'après l'arrivée de Colomb, de Christophe Colomb, donc... ce qu'il a d'abord appelé la découverte de la nouvelle Inde. Hein, et il y a des commerçants, des mercenaires, des criminels et des paysans qui se sont installés sur les terres indigènes. Hein, une emprise validée par l'Église catholique. Hein, c'est pour ça que j'en parle. Il s'ensuit une catastrophe démographique avec plus de 90% de la population originelle qui a été anéantie en moins de 100 ans. Hein, Bartolomé de Las Casas, le premier prêtre catholique à exercer ses fonctions aux Nouvelles Indes, hein, donc, a été le témoin de cette catastrophe. Tuer et asservir d'autres êtres qu'il estimait également humains, le placer devant un dilemme. Hein. Mais notre prêtre croyait autant à la colonisation qu'à l'humanité des Indiens. Il proposa donc un compromis aussi médiocre qu'ambigu, la liberté pour les sauvages, donc les Indiens, et l'esclavage pour les barbares, les Africains. Grâce à l'Église, donc, la colonisation, elle a gagné. C'est ce que j'avais en tête quand je lui ai demandé comment était reçue l'intervention de l'Église dans cette région du monde.
Et tu as très bien fait de poser cette question.
Alors, il y a eu un processus de décolonisation, bien sûr, et après, un grand changement sur les positions de l'Église, qui, aujourd'hui, ne s'impose plus pour évangéliser, mais vit avec les personnes et s'intègre dans la vie des gens. Et elle ne se présente plus comme un acteur de conversion, mais bien comme un acteur majeur dans la vie des personnes. Et d'ailleurs, l'Église a apporté l'éducation, a permis des projets d'amélioration de la vie des personnes, bien sûr. Et elle est surtout un lieu d'écoute où elle comprend, elle entend, elle écoute et elle renforce le pouvoir d'agir des personnes. Et elle renforce aussi les communautés.
Comme je vous l'avais dit, il est intervenu dans le cadre de la semaine La Haute Autarcie, un mouvement de mobilité de la communauté catholique. Je vous laisse écouter ce que ça signifie.
Alors, il y a eu un processus de décolonisation, bien sûr, et après...
Est-ce que je me suis planté ?
Oui.
Oui, je me suis complètement planté.
C'est pas grave.
Alors, on écoute... C'est la question sur le...
Alors, nous sommes venus ici dans le cadre des semaines Laudato Si. Les semaines Laudato Si sont des semaines que le pape François promeut pour approfondir et réfléchir à la sauvegarde de la maison commune, qui est ce que nous propose de vivre l'encyclique Laudato Si. Cette maison commune, c'est à la fois bien le monde dans lequel nous vivons, la création qui nous a été donnée, à la fois les êtres humains, la nature, les éléments, mais aussi la fraternité, la spiritualité, les relations horizontales entre les personnes. Et du coup, avec le Secours catholique dont nous sommes partenaires, nous sommes venus pour échanger sur les pratiques en Colombie, ce que nous faisons, mais aussi pour nous enrichir de ce que le Secours catholique fait ici en France et pouvoir partager. Partager par exemple ce matin sur la réalité de la sécurité alimentaire. Comment est-ce que aujourd'hui au Secours catholique on fait face aux soucis d'alimentation des personnes en précarité? Comment on contribue à un mieux vivre ensemble? Donc on a passé la matinée à l'accueil de jour de la rue des Murlins. Et puis, de la même manière, ce soir, il y aura un échange rue des Murlins sur le travail que nous menons en Amazonie. Je présenterai la Finca Amazonica, qui est une ferme en Amazonie, avec certaines composantes bien particulières qui permettent aux personnes de vivre.
Moi, je n'ai pas pu rester pour la conférence qui s'en est suivie. Hein. Mais j'ai quand même voulu savoir ce que lui, il allait garder de cette visite à Orléans, une grande terre avec beaucoup de surprises, comme on l'a entendu.
Les différentes problématiques qu'on a vues ce matin, surtout au sujet de la migration, là, nous les vivons partout. Vous les vivez en Europe et nous, en Amérique latine, pareil. On doit nous aussi accompagner, on doit nous aussi... on ne doit pas oublier que nous aussi nous avons été migrants à un moment donné dans notre existence. Donc ça, c'est le premier élément. Les autres éléments concernent les changements climatiques et les impacts de ces changements climatiques qui affectent tout le monde. Ça affecte les pays du Sud, bien sûr, mais aussi maintenant les pays du Nord. Et donc ça nous oblige à réfléchir à la transformation de nos pratiques. Et bien souvent, les personnes les plus pauvres sont les plus impactées, puisque non seulement elles sont pauvres, mais en plus, elles subissent de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Et si on parle d'autres réalités, ce serait pareil sur, sur d'autres, d'autres problèmes. Mais en tout cas, ce qu'on a vu il y a peu, là, on est allé visiter la racinerie. Et ben, ce qui me marque, ce sont qu'il y a encore des personnes qui initient des choses, qui font preuve de créativité, de volonté pour accueillir, pour initier des choses, pour continuer. Et même si elles sont peu nombreuses, ces personnes, eh bien, le peu qu'elles font nous permettent d'avoir de l'espérance dans ce monde.
Ouais, bon, j'avoue, j'étais un peu taquin avec eux, hein, mais bon. Après, en vrai, ils sont basés. Hein. Ça reste une bonne piste de travail sur les luttes contre la destruction environnementale en Amazonie. Et le REPAM travaille sur un axe qui est sorti de la précédente COP, hein, à savoir les inégalités dans la transition écologique entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc, bon, ça reste un axe pour rendre visibles des difficultés régionales qui, au final, ont une portée plutôt mondiale.
Au final, tu étais content de les rencontrer, de le rencontrer en
tout cas. Oui, ah. C'était une bonne discussion. L'interview dure une trentaine de minutes, mais bon, là, j'ai fait des choix.
Mais, ouais, mais tu savais ce que c'était avant ou pas? On en a parlé tout à l'heure avant l'émission avec Victor.
Je ne connaissais pas.
En Amérique latine, il y a des églises depuis des années, hein, depuis les années 70, 60,
70. Ah non, mais même avant, la théologie de la libération.
La théologie de la libération, ce sont des gens qui sont très proches, qui sont des prêtres sociaux en fait, c'est ça. Et ouais, non, mais allez regarder ce qu'ils font, parce que moi, après ton reportage, quand tu me l'as envoyé, je suis allé voir ce qu'ils font, on ne l'aurait pas, mais c'est vraiment, vraiment très bien.
Ouais, franchement, il y a des trucs assez intéressants à regarder, et puis peut-être dont il faudrait s'inspirer.
Très, très bien. Merci pour ces deux excellents reportages, Asma et Steven. J'avais prévu de parler aussi de Bourges, capitale européenne 2028, de la culture, mais ça sera pour une autre fois parce que c'est aussi intéressant à suivre. On en parlera, c'est en 2028, on a le temps de passer sur le reportage. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Amis auditeurs, chers amis auditeurs, comment on dit
auditrices.
C'est vrai, auditrice, auditrice.
Non, mais c'est...
Ah, c'est pas mal, ça je connaissais pas.
Ça, oui.
Moi je l'entends beaucoup ici sur cette radio et ça me plaît bien finalement. Auditeurisme, je dirais désormais, vraiment. Dans la suite des programmes sur Radio Campus Orléans, c'est Raidon évidemment, vous le savez. Et sur Radio Campus Tour à 21h, retrouvez l'émission de jazz. C'est avec Steven Marin. Ben, merci à vous.
Merci à toi, Hassan.
Super émission. C'est avec Steven Marley que nous allons terminer cette émission, l'émission de ce mardi. C'est un des héritiers, hein, d'un certain Bob. En 2007, sur son album, un bel album Mind Control, il y avait ce superbe Chase Them. À bâton rompu, revient mardi prochain avec les amis du monde Diplo.
When I see them, I get cold. Yeah. Well, my friend,
all you get,
sell your soul for a piece of gold. Yende and their companions slay, steady through the night.
Yeah.